Bonjour, bienvenue. Merci d'être là pour cette nouvelle édition de Questions d'éthique. Alors, vous le savez, le débat d'idées est une part importante de la programmation du lieu unique, avec des événements qui rythment toute la saison, les géopolitiques, questions d'éthique, et puis un peu plus tard dans la saison Atlantide, le festival des littératures. Et puis on a aussi toute l'année une programmation Labo Utile avec beaucoup de conférences, de discussions, d'entretiens sur un grand nombre de sujets que l'on propose tout seul ou avec des partenaires. Alors, question d'éthique, 7e édition cette année. Nous l'avons imaginé et nous le construisons chaque année avec Ethica et tout particulièrement Guillaume Durand, son président, qui est maître de conférences en philosophie à l'Université de Nantes et qui est responsable du master éthique. Et également avec un petit comité de programmation que nous remercions chaleureusement. Donc chaque année, on s'empare d'un sujet, un thème qui fait débat dans la société. On a examiné le genre, les addictions, les violences faites aux femmes, le transhumanisme et l'intelligence artificielle, l'écologie et la décroissance. Et cette année, donc, on a choisi les tabous. Quelles origines, quels fondements pour les tabous, l'inceste, bien sûr, le cannibalisme, mais aussi l'assistance sexuelle, le corps des femmes. Peut-il y avoir des tabous dans l'art? Donc, beaucoup de discussions durant ces deux journées, mais aussi des films, des écoutes radiophoniques, et puis une joute oratoire, mais je laisserai Guillaume peut-être en dire un peu plus. C'est la première fois que l'on fait cette joute. Et puis une librairie, un café, voilà. Donc tout ce qu'il faut, je pense, pour passer deux bonnes journées de réflexion. Je remercie évidemment tous nos invités. Et puis je vous souhaite deux belles journées. Et je passe la parole à Guillaume pour modérer cette première conversation.
Merci Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là donc pour cette 7e édition de Questions d'éthique. Alors on commence sur une question, on va dire, très, très générale. Pourquoi les tabous? Et pour ce faire, pour introduire simplement le propos, la question, j'ai relu Freud un petit peu dans Totem et tabou. On ne pouvait pas ne pas relire cela, en 1912, qui définit le tabou comme une terreur sacrée, ce qui ne doit pas être transgressé, l'interdit, et ce qui suscite la peur, la terreur. Alors Freud reprend le mot polynésien, qui signifiait ce qui est soustrait à l'usage courant. Un arbre qu'on ne peut toucher ni abattre est un arbre tabou. Alors parmi les tabous les plus connus, il y a le cannibalisme, l'inceste, différentes formes de conduite sexuelle comme la zoophilie, la nécrophilie, la pédophilie. Alors ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques mois, je questionne mon entourage sur, selon vous, c'est quoi un tabou ? Et la liste est à chaque fois différente. Alors on me donne souvent donc certains, c'est les odeurs corporelles, les règles aussi, etc. Donc on n'est pas tous d'accord visiblement sur quels sont les tabous. Vous voyez, ça, déjà, peut-être on reviendra là-dessus. Alors on souhaitait ouvrir les questions d'éthique sur les raisons d'être de ces interdits. Pourquoi les sociétés humaines ont-elles établi des interdits absolus? Ces tabous sont-ils universels? Quelle est leur origine? Mais aussi sont-ils fondés rationnellement au même titre que certaines autres obligations morales et juridiques, l'interdit de tuer par exemple? Enfin, à quoi servent leurs tabous? Quelle est leur fonction? S'agit-il pour l'inceste, par exemple, de préserver, on l'entend souvent, l'avenir de l'humanité? On a mis souvent alors en avant les problèmes liés à la consanguinité. Pour nous éclairer sur ces différentes questions, nous avons le plaisir d'accueillir Marilène Patou-Matis et Bernard Bertschy. Marilène, vous êtes directrice de recherche au CNRS, rattachée au département Hommes et Environnement du Muséum d'Histoire Naturelle, préhistorienne. Vous êtes spécialiste des comportements des hommes préhistoriques, en particulier des Néandertaliens et des premiers hommes modernes en Europe. Parmi vos ouvrages, Je cite Néandertal de A à Z, 2018. Et puis le plus récent ouvrage que j'ai lu pour préparer cette table, L'homme préhistorique est aussi une femme, publié donc tous les deux aux éditions Alary. Marie-Hélène, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, je suis ravie.
Et puis Bernard Berchi. Bernard, vous êtes philosophe. Vous avez enseigné la philosophie morale et la bioéthique à la faculté de médecine et au département de philosophie de l'université de Genève. Et puis en Suisse, vous êtes membre aussi de la commission fédérale d'éthique pour le génie génétique non humain. Et en France, vous faites partie du comité d'éthique de l'INSERM ainsi que de celui des maisons des sciences de l'homme. Vous travaillez actuellement sur les questions éthiques posées par les biotechnologies et les neurosciences. Votre dernier ouvrage porte le titre « De l'humain augmenté au post-humain », donc plutôt sur le transhumanisme, chez Vrin en 2019. Et puis je signale aussi votre ouvrage, plus en lien avec notre thème d'aujourd'hui, « L'éthique à l'écoute des neurosciences », paru aux Belles Lettres en 2013, qui peut notamment nous éclairer sur les fondements de la morale. Alors, une première question, et je commencerai peut-être par Bernard, sur qu'est-ce qu'un tabou ? Est-ce que, en tant que philosophe, comment en tant que philosophe, vous pourriez définir le tabou ?
Bon, peut-être une première remarque, Guillaume, c'est que les philosophes ne sont pas beaucoup occupés des tabous. Alors, Freud, il est à la croisée de nombreuses disciplines, hein, mais disons, ce n'est pas quelque chose qui, effectivement, a intéressé les philosophes. Par contre, les philosophes ont été beaucoup intéressés, surtout en éthique, mais pas uniquement en épistémologie aussi, sur la question de l'universalité. Est-ce qu'il y a des structures ou des croyances qu'on retrouverait partout, hein? Et ça, c'est, de ce point de vue-là, on rejoint un peu la question des tabous. Et puis, le tabou, c'est quand même aussi une interdiction. Tu as souligné ça, hein, dans ton introduction. Alors, les philosophes, surtout les philosophes moraux, sont assez familiers des interdictions. Il y a beaucoup d'éthique, bon, pensons à celle de Kant, hein, qui est quand même pas mal fondée là-dessus. Mais la question, effectivement, de l'universalité des tabous, tu l'as souligné, mais je pense que c'est assez intéressante. Parce que probablement qu'il y a des interdictions ou des tabous partout, mais est-ce que ce sont les mêmes, hein? Ça, ben, c'est pas moi qui aurai la réponse, hein. Mais c'est vrai qu'il semble aussi par ailleurs que les tabous jouent un rôle dans la régulation de nos sociétés. Et ce sont des normes, les tabous, hein, c'est des interdictions, donc c'est assez normatif. C'est pas le seul, on a d'autres systèmes normatifs qui ont pour but de favoriser la coopération sociale, de permettre aussi à nos sociétés de perdurer. Ben, il y a l'éthique, il y a le droit dès qu'un État est constitué, effectivement. Et puis il y a la religion aussi, hein, qui sert de, si on peut dire, de ciment social. Alors quelle est la place des tabous là-dedans ? Je ne vois pas très bien, mais je remarque quand même tout de suite que si on prend notre religion, c'est-à-dire la religion chrétienne, et même les religions monothéistes, qu'on remonte à l'origine et qu'on voit Moïse recevant les tables de la loi, il reçoit une série d'interdictions, à une ou deux exceptions près. Sur les 10 commandements, il y en a 2 qui sont plutôt positifs. Tu respecteras le jour du sabbat. Mais tous les autres sont des interdictions. Et en plus, des interdictions catégoriques, c'est-à-dire sans condition, sauf un, je me reporte à ma liste. Honore ton père et ta mère, d'ailleurs, ce n'est pas une interdiction. Si tu veux vivre longtemps, c'est une condition. Parce que peut-être qu'on ne veut pas vivre longtemps, allez savoir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les autres commandements sont inconditionnels. C'est tu ne voleras pas, point barre. Et peut-être que là, il y a quelque chose qui rapproche l'éthique des tabous. Mais voilà, c'est une petite, quelques réflexions préalables.
En tant que philosophe, est-ce que vous distingueriez l'interdit du tabou ? C'est l'interdit moral. Vous parlez tu ne voleras pas, mais ce n'est pas un tabou. C'est-à-dire qu'on en parle. Est-ce qu'il y a une terreur sacrée ?
Alors, je pense que non, parce que terreur sacrée, pour les philosophes, c'est un concept qui n'est pas à la maison. Je pense que la différence, c'est qu'on considère en général...
Pourquoi les philosophes ne...
Parce que le sacré, c'est un concept qui a trait plutôt aux religions ou à des systèmes, en tout cas normatifs ou de pensée, qui... La philosophie, c'est quand même fondé, si on pense à Socrate, sur l'examen rationnel. Alors, on peut discuter, est-ce que toutes les positions philosophiques sont rationnelles ou pas, mais je pense que c'est ça une première différence. Les interdits moraux, en principe, on pense qu'on peut leur donner une justification rationnelle. Alors que les tabous, c'est plutôt des, effectivement des sortes de choses qui de répulsion. Mais alors bon, on en parlera peut-être plus tard. Je pense que certaines études de neuropsychologues actuels, neuropsychologues de la morale, ont tendance, comme celle de Joshua Green, ont tendance à faire diminuer l'écart entre les deux.
Ok, merci bien. Alors, on en reparlera effectivement, mais vous voyez, ce qui est intéressant dans les premières lectures, en tout cas dans la littérature philosophique, éthique, c'est de s'apercevoir que les tabous, effectivement, sont des interdits qu'on ne questionne pas, qui ne semblent pas justifiés sur le plan rationnel, à la différence des devoirs et des obligations morales et juridiques qu'on va discuter, etc. On va y revenir, mais ça peut permettre d'éclairer aussi ce qu'on nous ressentons à l'égard de certains tabous concernant l'inceste, par exemple, concernant le cannibalisme. Mais je trouve que cette définition, en tout cas, est assez éclairante. Et on va y revenir par la suite. Marie-Hélène, comment est-ce que vous, en tant que préhistorienne, vous définissez le tabou ?
Bah, déjà, c'est extrêmement difficile à savoir si c'est un interdit ou un tabou quand on est devant un constat. Si je prends avec les dernières données, notamment grâce à l'ADN ancien, par exemple, on s'est aperçu que l'interdit ou le tabou de l'inceste n'existait pas forcément dans toutes les sociétés préhistoriques. Là, je voudrais juste faire une petite remarque. Il faut faire très attention. Parce qu'on dit souvent la préhistoire, mais ça n'a pas de sens. C'est un nom générique qui ne veut rien dire, c'est un fourre-tout. En fin de compte, il y a deux grandes parties dans cette préhistoire, c'est-à-dire avant l'histoire, avant l'écriture. C'est quand même toute la période qu'on appelle le paléolithique, où nous sommes des peuples chasseurs, cueilleurs, nomades, donc dans un système clanique très fort, petite démographie. Et ensuite, il y a à peu près, là ça va durer très très longtemps, hein, plusieurs millions d'années si on prend les plus anciens. Et après, vers 14 000 ans, on va basculer dans un autre système qu'on appelle le néolithique, mais qu'un autre système économique et aussi de structure sociale, on le voit très nettement, où nous sommes des éleveurs et des agriculteurs. Et là, c'est très important parce qu'on voit des choses qui changent. Donc, si on parle des périodes la plus ancienne, nous, grâce maintenant à de nouvelles méthodes, on peut aller un peu plus loin. Par exemple, au niveau de l'ADN ancien, on peut faire de l'ADN ancien quand le collagène est bien conservé dans les ossements humains, hein, puisqu'on fait des fouilles archéologiques, on sort du matériel, on travaille sur du matériel. C'est-à-dire que ce sont des données qui s'appuient sur des données scientifiques. Et ça, c'est très important. Il va y avoir après la déduction, c'est pour ça qu'on parle en termes d'hypothèse, mais on parle de ça. Donc, ce qu'on sort des chantiers de fouilles, c'est des ossements humains, des ossements d'animaux, des outils, etc. Et on fait parler. Et maintenant, grâce à des nouvelles méthodes d'investigation, notamment l'ADN ancien, par exemple, on a découvert quelque chose de très intéressant. Là, je parle, c'est très abondant, surtout c'est les sociétés néandertaliennes. Donc, c'est des sociétés qui font entre 400 000 ans et à peu près 35 000 ans, et qui sont beaucoup, beaucoup en Europe. Et nous avons les eurasiatiques des gènes de ces néandertaliens, hein, entre 1 et 4 %. Et donc, on s'est aperçu, par exemple, qu'il y avait de la consanguinité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, et ce degré était peut-être, pour prendre les termes actuels, c'était entre oncle et nièce et neveu tante, hein, c'est avec nos termes, bien sûr, il n'y avait pas de famille au sens. Et donc ça, c'est intéressant, ça montre que ce système clanique, dans ces sociétés qui faisaient entre 30 et 50 personnes, en fin de compte, il y avait ces relations sexuelles qui étaient. On n'a pas trouvé entre enfants et parents, mais on a trouvé quand même un degré assez élevé. Et donc, voilà, il y avait cette consanguinité. Donc, il n'y avait pas ce tabou de l'inceste.
C'est une corrélation, mais comment on peut vraiment être certain que ces relations sexuelles et ces enfants étaient véritablement acceptés socialement? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il pourrait y avoir effectivement de la consanguinité, mais dans une société ou dans une tribu où elle était interdite, où les relations incestueuses étaient interdites, comment vous savez?
C'est-à-dire que non, parce que là, on voit en fin de compte que ces relations sont relativement, hein, tout est relatif, fréquentes dans certaines sociétés, et que ça n'a pas engendré, si vous voulez, une mortalité excessive de ces personnes qui, dites entre guillemets, qui seraient espèces de paria. Pas du tout. On a plutôt l'impression que c'est quelque chose, et c'est assez intuitif, on le disait même d'une façon intuitive, que dans ce système clanique, En fin de compte, ce qui compte, c'est quand même qu'il y a du succès au niveau de la reproduction et que cette notion, à mon avis très tardive, de la famille n'est pas en place. Ce qui compte, voilà, c'est qu'il y a le seul avenir pour ces clans, c'est la pérennité du clan, donc c'est l'enfant. Et les relations doivent être multiples. C'est-à-dire que, voilà, on n'a pas ces représentations familiales.
Oui. En tant que préhistorienne, parce que c'est comme ça qu'on peut vous nommer hein, dans votre fonction, est-ce que vous avez une définition particulière ? Parce qu'on a entendu la définition du philosophe Bernard qui parle d'interdit, de normes. Hein, donc, et en tant que préhistorienne, le tabou, comment vous le...
En fin de compte, on n'a pas du tout de définition. En fin de compte, on se réfère à ce qui existe, justement, du côté des philosophes, des sociologues, etc. Et on essaie de voir peut-être à partir de quand ça va s'enraciner. Donc de chercher quelque part si c'était présent ou pas présent, c'est tout. Mais c'est-à-dire qu'on ne parle pas dans ces termes-là, parce que qu'est-ce que ça veut dire tabou dans des sociétés aussi lointaines, quand des structures économiques, quand des structures sociales, quand des cosmogonies différentes, vous voyez, de vouloir absolument calquer ces réflexions que nous avons, nous, dans le monde occidental depuis plusieurs siècles, sur ces sociétés tellement différentes, qui sont dans un autre monde, et c'est vrai qu'on emploie ces termes d'interdit parce qu'on fait aussi beaucoup de réflexions avec les ethnologues. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout défini au niveau scientifique, archéologique. On ne définit pas du tout ces termes-là.
D'accord. Alors, je voudrais vous projeter un court extrait du film La guerre du feu. Juste avant, pour clore ce premier point, je voudrais vous citer, lire juste cet extrait de Freud qui reprend un peu ce qu'on vient de dire. Les restrictions taboues, toujours dans Totem et Tabou, sont autre chose que des prohibitions purement morales ou religieuses. Et il ajoute, elles ne se fondent sur aucune raison. Et plus loin, il écrit, ces peuples primitifs se soumettent aux tabous. Ils ignorent les raisons de telle ou telle interdiction et l'idée ne leur vient même pas de les rechercher. Ils s'y soumettent comme à des choses naturelles et sont convaincus qu'une violation appellerait automatiquement sur eux le châtiment le plus rigoureux. Alors, est-ce que vous pouvez nous passer cet extrait ? Donc, vous allez voir au début du film, vous savez, donc, La guerre du feu de Jean-Jacques Hano. Mince, je n'ai pas noté la date, mais c'est le début des années 80. Ils perdent, ils sont attaqués au début du film par un autre clan, hein, dans leur caverne où ils ont un feu. Et ils se font voler le feu. Et donc, sans feu, bien sûr, ils sont, leur survie est mise à mal et mise en difficulté. Et donc, trois hommes du clan partent explorer la terre, enfin la région, pour retrouver eh bien, une flamme. Hein. Et donc là, ils ont parcouru quelques kilomètres, ils se sont sauvés, ils ont été attaqués par des lions, et ils ont passé deux jours en haut d'un arbre. Ils descendent de cet arbre parce qu'ils ont vu une fumée au loin, et ils arrivent près, ils sont morts de faim, près de ce feu, et ils vont trouver des choses dans le feu. L'extrait, s'il vous plaît, la technique. Merci.
No!
Voilà donc. Premier extrait. Ben, ce sera le seul d'ailleurs de la guerre du feu. Et Marie-Hélène Patoumati, je dois vous remercier parce que c'est en lisant votre livre que j'ai retrouvé vous parler de ce film. Film que j'avais vu à l'époque en me disant que c'était un. Voilà, j'avais été assez, ébranlé un peu par les images que j'ai revues. Il est un peu mal vieilli. Vous verrez, il y a des passages avec des mammouths. On voit presque les hommes qui sont en train de porter les costumes, en train de courir dans les champs. Bon, mais alors, qu'est-ce que vous pensez? Alors, j'ai compris que ce film doit vous mettre en colère, hein, parce que pour le grand public, l'image, enfin la représentation qu'on a de la préhistoire, c'est la guerre du feu de Jean-Jacques Hano. On est dans notre deuxième partie là, de la discussion, donc les origines des tabous. Est-ce qu'il y a des tabous donc universels, intemporels, présents dès nos origines? Ici, Jean-Jacques Hano répond oui, visiblement, concernant le cannibalisme. Hein.
Alors, déjà, je voudrais préciser que ce n'est pas Jean-Jacques Hano qui a eu cette idée. C'est donc Rosny aîné, qui étaient en réalité les deux frères, hein, les frères Boé. Et ça a été écrit à la fin du 19e siècle. Parce que donc la guerre du feu, le roman préhistorique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la préhistoire en tant que discipline est relativement jeune. Elle prend naissance au 19e siècle. Elle va se développer surtout à partir de 1863. Il va y avoir tout de suite un engouement. Il va y avoir les savants, évidemment, mais aussi un engouement du public, parce que justement, c'est un monde tellement disparu. Donc, on va même mettre les dinosaures avec les hommes et tout, ce qui n'est pas vrai, évidemment. Et donc, il va créer tout un tas de mythes. C'est ce qu'on appelle la mythique préhistoire, où justement, on va avoir toujours ces clichés. Avec la violence, avec l'homme, le masculin viril, etc. C'est lui qui fait tout. Hein. La femme, elle est là pour, comme je dis, balayer la grotte et puis faire les enfants. Et donc ça vient de cette période-là. Ça s'enracine dans ce 19e siècle et début du 20e siècle. Et c'est vrai qu'on va voir dans ces films, dans ces romans, tous les tabous du 19e siècle occidental, parce qu'en plus la préhistoire, elle est occidentale. C'est-à-dire que les préhistoriens, pendant très longtemps, vont être, au 19e, notamment au début 20e, vont être des occidentaux. Hein, des Français, ça naît en France, en Espagne, en Grande-Bretagne. Donc c'est un système qui est très occidental, basé sur le patriarcat. Et, sur, voilà. Et donc toutes les structures, tout ce qu'on va imaginer dans les comportements de ces humains préhistoriques, eh ben, ça va être en fin de compte basé sur ce qui se passe dans la société du 19e en Occident, avec la valorisation justement de ce côté viril, de ce côté aussi, c'est la période du paradigme très très puissant de l'évolution progressive et unilinéaire de l'évolution humaine, c'est-à-dire que dans le passé et tout, c'est vraiment simiesque, c'est proche des singes, même s'il y a la théorie évidemment de Darwin qui montre cette évolution, et donc on va accentuer ce côté primitif de ces humains, de nos ancêtres, pour dire, regardez comme on est super moderne maintenant, on est très civilisé, etc. Donc ça, c'est un moment très très fort.
Et alors, on va revenir sur la représentation des femmes dans la préhistoire, mais sur cette scène concernant le cannibalisme, ici donc, il prend conscience que c'est de la viande humaine, et donc il la rejette, alors qu'il est affamé. Hein, donc, est-ce que c'est plausible ça sur le plan scientifique?
Moi, je pense, comme je disais tout à l'heure, les sociétés sont multiples. Hein, c'est-à-dire que pendant des milliers d'années, il va y avoir plein de sociétés différentes préhistoriques. Donc, on peut pas non plus généraliser, essentialiser en disant, voilà, il faisait ça, il faisait comme ça. Non, dans certaines sociétés, en tout cas, ce qui est prouvé. J'en parlerai plus tard dans la journée. Ce qui est prouvé, c'est qu'il y a du cannibalisme et qu'il est relativement fréquent. Alors, on discutera tout à l'heure sur alimentaire, pas alimentaire, etc., mais, ou rite funéraire. Mais en tout cas, il est très présent. Il est présent il y a 800 000 ans. On a des preuves dès 800 000 ans de cannibalisme. Donc, en tout cas, dans certaines sociétés, il n'était absolument pas tabou. Donc, c'est une donnée importante. Mais là aussi, si vous mettez des sociétés anciennes, très anciennes, vous les mettez cannibales, c'est comme on a fait pour certaines sociétés dites primitives, etc. On les a dit, voilà, le bon sauvage et le cannibale, hein, c'était les deux versants d'une même monnaie. Et en fin de compte, ça rendait ces gens-là, non civilisés, etc., qu'il fallait éduquer et tout. Donc on est dans le même processus, c'est-à-dire que là, ça permet de dire, vous voyez, on a nettement progressé, etc. Et en réalité, c'est pas le cas.
Et d'ailleurs, dans la guerre du feu, le clan des cannibales, c'est vraiment les barbares. Hein, ils sont voilà, très, très sauvages, encore très, très proches des primates, alors qu'eux sont beaucoup plus...
Un peu plus, c'est oui, mais c'est-à-dire qu'il fait pas mal de mélanges, parce qu'on voit même d'autres peuples, et en plus, on voit même de la céramique qui n'existait pas, évidemment. La céramique, c'est plus tardif, hein, c'est au néolithique. Donc, il y a un peu un mélange voilà, des périodes, parce que, évidemment, au moment de l'écriture du roman, il n'y avait pas toutes les connaissances qu'on a maintenant aussi en préhistoire.
Et alors, sur la place de la femme et la sexualité, alors ce film doit vous mettre en colère, non ? Parce que vraiment, alors là, donc en revoyant le film, les femmes, si vous vous souvenez, enfin la femme qui est filmée, enfin le personnage, c'est soit un objet sexuel, soit un objet domestique, enfin, me semble-t-il, dans ce film, hein, les femmes sont réduites à cela, et les hommes sont les chasseurs, voilà.
Ah oui, c'est vraiment l'archétype qui est le plus courant, c'est-à-dire que la femme n'est jamais sujet. Elle est toujours pour valoriser les hommes ou l'homme. Hein. C'est l'homme va se battre contre des bêtes farouches hein, comme le tigre à dents de sabre, etc. pour sauver une pauvre petite femme toute chétive. Voilà, donc on est vraiment dans ça parce que ça reflète, et c'est ça qui est important à garder en mémoire, ça reflète la société. C'est-à-dire le système patriarcal où la femme était considérée comme mineure, comme subordonnée. Et donc là, forcément, on a exactement ça. C'est-à-dire qu'on a calqué complètement le mode de société.
Alors, dans L'homme préhistorique est aussi une femme, et Bernard, on va revenir bien sûr au point de vue du philosophe, vous faites l'hypothèse, et s'il vous plaît, la technique, est-ce que vous pourriez simplement projeter les trois images que Marilène a bien voulu nous envoyer ? Normalement, elles vont passer derrière nous. Vous faites l'hypothèse, je vous cite, d'une sexualité débridée chez nos ancêtres. Donc, autre tabou concernant ici la nudité, et la sexualité. Autre tabou pour lequel vous avancez l'hypothèse, en vous basant bien sûr sur des études scientifiques, qu'il n'était pas universellement partagé. Hein, et vous appuyez notamment sur ces représentations de phallus, de vulve.
Oui, ce qui est important, ce qu'on a constaté, qui est important à voir dans ces périodes du paléolithique. Hein, pour vous situer, hein, c'est les grottes de Lascaux, les grottes de Chauvet, etc. Et aussi, il y a toute une statuaire. C'est un art qui est un art animalier. Il y a très peu. Alors là, on peut peut-être aussi s'interroger sur le tabou de la représentation humaine, parce qu'on en a très peu. Et contrairement au naturalisme, parfois extrêmement précis et tout, qu'on a sur les animaux, on n'a jamais ça pour les humains, sur l'art pariétal. C'est quelque chose de très intéressant. C'est vraiment des silhouettes. Quand il y a des représentations humaines, ce sont des silhouettes ou des organes sexuels, notamment féminins. Parce que le féminin, dans cet art, pour les humains, c'est 90%. Ce sont des représentations féminines. Alors, soit des silhouettes, soit des Vénus, là, comme vous aviez les petites statues, soit, par exemple, justement, des vulves. Et là, ça, c'est quand même très intéressant, parce que quelque part, il ne faut pas représenter les humains d'une façon très naturaliste. Et quand il y a des humains, on va les représenter, ça va être toujours du féminin. Et souvent, ces statuettes sont féminines, sont nues. Les vulves, etc., sont très présents. On a très peu de phallus, puisque je vous dis, la dominance est féminine. On a quelques-uns, mais très peu. Et donc, on a l'impression qu'à cette période-là, il n'y a pas ce problème, ce tabou de la nudité. Et là, ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut comprendre, parce que pendant très longtemps, beaucoup de sociétés vivaient quasi nues, et il n'y avait pas cette espèce de pudeur, de dire que c'est sale. Quand même, c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard. Donc là, par exemple, je ne pense pas que dans la plupart de ces sociétés, il y a ce problème de la nudité. Je crois que ça, c'est quelque chose qui a été plus tardif.
Très bien.
Oui, Bernard. Peut-être, pour compléter, c'est assez intéressant de voir que, bon, comme je suis philosophe, une autre philosophie, elle vient des Grecs. Alors, les Grecs, il y avait de la représentation de la nudité, mais par ailleurs, on ne peut pas dire que c'est une société égalitaire, loin de là. Alors, c'est vrai. Bon, si on regarde les philosophes, ils sont peut-être un peu moins inégalitaires que la vie publique. Même quelqu'un comme Platon pense que l'homme et la femme peuvent avoir les mêmes rôles. La seule différence étant que l'homme est un peu plus fort que la femme et que ça ne justifie pas une différence de rôles sociaux. Mais Aristote, son élève, n'est pas du tout d'accord. Alors Aristote, il est peut-être moins misogyne qu'on l'a quand même dit, parce qu'Aristote pense qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme, mais comme entre un gouvernant et un gouverné.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Et il essaye chaque fois de trouver des raisons biologiques de cette différence. Et c'est intéressant de voir aussi, parce que les Grecs aussi se sont définis par rapport à l'autre, par rapport aux barbares. On vient plusieurs fois, le mot barbare est ressorti. Mais les Grecs se définissent par rapport aux barbares. Aristote définit l'homme par rapport aux animaux. Toute la condamnation de la bestialité. Alors, je ne sais pas si on la trouve déjà chez les Grecs, mais en tout cas dans la morale plus tardive, d'ailleurs assez intéressante, on considère que certaines activités sexuelles sont dignes des bêtes et pas de l'être humain, mais quand on regarde de près, on se rend compte que c'est des activités sexuelles que les animaux ne pratiquent jamais. Hein. Seuls les hommes la pratiquent. Donc il y a une espèce de jeu d'aller-retour entre l'être humain et l'animal, entre le barbare, entre l'homme et la femme, etc., qui fait que, effectivement, bon, c'est pas... Alors, qui fait que c'est complexe, mais d'autre part, qui explique aussi pourquoi notre civilisation occidentale a quand même un point de vue relativement biaisé sur ces questions-là, parce qu'on a les Grecs et les Romains en arrière-plan quand même, hein. Plus le christianisme qui s'est moulé dans le même sillon.
Bernard, que répond le philosophe que tu es, philosophe de la médecine, bioéthique, à la question est-ce qu'il y a des invariants moraux et finalement aussi... Que disent les études scientifiques sur les origines? Alors, c'est une question très vaste. Hein. Oui. Les origines de la morale.
Alors, bon, pour l'origine, bon, on peut avoir une explication. Alors, évidemment, il y a l'explication religieuse, mais l'explication, disons, la plus reçue actuellement dans le monde académique, c'est l'explication de type darwinienne. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin de normes pour vivre en société et on a besoin de pouvoir compter sur les gens avec qui on vit. Même si on. Et c'est d'autant plus vrai quand le groupe devient plus grand. Alors, est-ce qu'il y a des invariants moraux? Alors, il y a d'abord une invariance de la morale, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il n'existe pas.
Là, t'es déjà sur la fonction. C'est-à-dire que le tabou viendrait permettre le vivre ensemble et la survie du groupe.
Pour le tabou, je ne sais pas.
Non, enfin, l'interdit.
Mais en tout cas, pour les normes morales.
Les règles morales et sociales.
Oui.
D'accord.
Alors, est-ce qu'il y a des invariants dans ces règles? Alors, c'est surtout les psychologues récents qui se sont mis à faire des études là-dessus. Alors, plus, évidemment. Sur leurs propres étudiants, donc sur aussi des gens de notre civilisation, mais dans laquelle on trouve quand même un certain nombre d'invariants. D'autres, comme Marc Hauser, ont essayé de faire les mêmes études en Afrique ou ailleurs, avec des résultats difficiles à interpréter parfois. Mais ce qu'on remarque, c'est que notamment, en tout cas, dans nos sociétés occidentales, il y a des distinctions morales qu'on retrouve un peu partout. Par exemple, la différence entre l'action et l'omission. Ce n'est pas la même chose de faire quelque chose ou de le laisser faire. Alors, certains, comme les utilitaristes, vont contester ce genre de choses, mais c'est assez répandu. L'idée est aussi qu'on est responsable des effets directs de nos actions, mais pas des effets secondaires ou latéraux. Hein. Dans les débats sur l'euthanasie, sur l'avortement, ces distinctions reviennent continuellement. Voilà. Et puis, il y a eu les études plus récemment d'un prix Nobel d'économie, Daniel Kahneman, qui semble dire que, dans le fond, on a à notre disposition deux systèmes moraux de réponse. Un système intuitif direct et quasiment, oui, comme il est intuitif, dont on ne peut pas vraiment donner des raisons, et un système plus réfléchi. Et ça a beaucoup été étudié sur un cas, si j'ai le temps de le raconter, qu'on peut appeler le dilemme du wagon fou, le trolley problem en anglais. C'est la situation, la suivante, vous la connaissez peut-être. Hein. Il y a un wagon hors de contrôle qui dévale le long d'une voie de chemin de fer. On ne peut pas l'arrêter. Plus bas sur la voie travaillent 5 ouvriers. Ils vont être écrasés. Mais il y a un aiguillage juste un peu avant. Et si vous actionnez l'aiguillage, le wagon va se dévier. Et sur cette autre voie ne travaille qu'un seul ouvrier. Donc si vous actionnez l'aiguillage, il n'y aura qu'un mort. Si vous ne faites rien, il y aura 5 morts. Quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils feraient, ou du moins... S'ils estimeraient, on ne leur demande pas de le faire eux-mêmes parce que ça implique des émotions plus compliquées, mais s'ils pensent qu'il serait moral d'actionner l'aiguillage, 80% des gens pensent que ce serait moral. Vous changez un petit peu le scénario. Il y a de nouveau un wagon qui descend, 5 ouvriers qui vont être écrasés, mais il n'y a pas d'aiguillage. Par contre, il y a une passerelle qui passe sur la voie. Sur cette passerelle, il y a un très gros homme. si ce gros homme était poussé sur la voie, il arrêterait le wagon. Il serait tué, mais il arrêterait le wagon. Il y a quelqu'un qui est à côté de ce gros homme. Il est tout mince, il ne peut pas se sacrifier, hein, il faut éviter ce genre de choses. Est-ce qu'il serait moralement correct ou permis pour cet individu de pousser le gros homme sur la voie? Et là, 80% ou 90% des gens répondent que non. Mais si vous réfléchissez, la situation est furieusement semblable. Une fois, il y a chaque fois un mort au lieu de cinq. Alors après, on peut essayer d'expliquer pourquoi il y a une différence. Mais ce qui est assez intéressant, c'est quand les gens, les mêmes personnes répondent oui d'abord et non ensuite, on leur demande pourquoi, ils ne trouvent pas de raison. Et ils se mettent à inventer des raisons. Alors certaines sont plus ou moins plausibles, hein, mais ça montrerait qu'on a des sortes de réponses morales immédiates, non rationnelles, mais qu'on rationalise après coup. On se raconte des histoires pour justifier ce que l'on fait quasiment intuitivement. Alors, est-ce que ça se trouve qu'en Occident ou partout? Ça, c'est la question à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a effectivement peut-être un répertoire moral, en tout cas, alors est-ce qu'il est social ou naturel, ça reste à déterminer, mais qui, dans le fond, nous habiterait, comme disait le cycliste, à l'insu de notre plein gré.
Et si on suit cet argument-là et cette expérience de pensée, où 80% des personnes sur la première variante, hein, soit on tue une personne, soit on en tue cinq, la plupart d'entre nous répondons « je préfère en tuer un plutôt que cinq », on est dans une approche, donc on dit en philosophie, plutôt conséquentialiste, hein, donc on regarde les conséquences de notre action et on se dit « mieux vaut tuer moins de personnes possible ». Si on est 80% d'entre nous conséquentialistes, ça plaide plutôt... c'est une question. Une inexistence, en tout cas, de certains tabous, puisque on se dit qu'on serait capable, alors si je reviens sur le cannibalisme, de manger une personne pour en sauver cinq, par exemple. Hein, si 80% d'entre nous, la grande majorité d'entre nous, je ne vais pas dire instinctivement, mais spontanément, nous sommes plutôt conséquentialistes. On pourrait déduire de cela l'idée que finalement, le cannibalisme de survie, on en reparlera avec Marie-Hélène, on en reparlera avec Mondor Kilani qui est dans la salle, sont des attitudes qui nous sembleraient légitimes.
Alors le problème, c'est que 80% aussi ne veulent pas pousser le gros homme. Et donc, dès qu'il s'agit d'utiliser, enfin c'est l'hypothèse de Green, dès qu'il s'agit d'utiliser directement sa force physique, il y a une sorte de tabou qui fait, c'est l'impératif de ne pas tuer, on peut voir ça de différentes manières. Par contre, si on emploie des dispositifs techniques plus ou moins qui éloignent l'effet de la cause, on est beaucoup moins gêné. Hein. Et ça revient quand même à quelque chose qu'on connaît un peu, aussi notamment dans les cas de guerre. C'est plus facile de tuer quelqu'un à distance, sans le voir, par un dispositif d'une arme à feu ou d'une bombe, que de lui enfoncer une baïonnette dans l'estomac. Hein. Mais ça peut effectivement vouloir dire qu'il pourrait y avoir un certain nombre de tabous liés notamment au respect, à ne pas tuer directement autrui. Pour le cannibalisme, je n'en ai pas la moindre idée. Mais effectivement, comme vous l'avez souligné, il semble que le cannibalisme soit présent dans pas mal de sociétés, donc que le tabou soit en tout cas pas du tout universel.
On va passer au... Sauf si, Marie-Hélène, vous voulez réagir par rapport à ce... Alors, on est loin de la préhistoire, ouais. Hein, l'argument du tramway. Et...
Non, ça me faisait penser juste à quelque chose. Alors, justement, cette histoire, le fait que dans ces sociétés de petites structures, on penserait que la naissance d'un enfant handicapé serait quelque chose d'handicapant, si je puis me permettre, pour le clan, et même pourrait entraîner éventuellement un problème de survie du clan. Et on a été très étonnés de découvrir qu'en fin de compte, on a des preuves archéologiques, on a trouvé des squelettes. Par exemple, je pense à une petite fille néandertalienne hydrocéphale et qui n'a pas du tout été tuée à la naissance, qui a été conservée dans le clan. Elle est morte, on estime, vers 3-4 ans, naturellement, sans doute à cause de sa pathologie. Donc ça, c'est des choses quand même très intéressantes. De même qu'on a, on voit aussi les personnes handicapées par un accident de chasse, etc., et qui ont vécu assez longtemps, jusqu'à 40, 50 ans, alors que c'était quelque chose de cicatrisé depuis très longtemps. Donc il a été pris en charge handicapant au sens de ne pas pouvoir marcher, par exemple, tout seul, etc. Ou les pertes de dents aussi, on s'aperçoit qu'il y en a qui ont été nourris. Enfin, donc on a quand même déjà des témoignages très anciens, vers, là je pense à ces dates de 100 000 ans, 70 000 ans chez les Néandertaliens, où il y a déjà ça. C'est-à-dire que là, quelque part, alors, je ne sais pas s'il y avait un interdit de tuer quelqu'un ou pas, je ne sais pas du tout, mais en tout cas ce qu'on constate c'est que... alors qu'on pourrait dire pour le bien-être du groupe, il vaudrait mieux que ces personnes soient éliminées, ben elle n'est pas éliminée. Et je trouve que ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant qui montre qu'il y avait déjà dans ces sociétés un code moral, je ne sais pas, c'est très difficile à employer le terme exact pour ces sociétés très anciennes, on prend ce qu'on a. Mais ça, en tout cas, c'est traduit, c'est-à-dire qu'on a des preuves de ça. Et je trouve que c'était quelque chose de très, très intéressant. Comme moi qui travaille beaucoup sur les animaux et la chasse, il est probable qu'il y avait déjà aussi peut-être des animaux qui étaient, entre guillemets, des totems. Je pense à l'ours des cavernes, par exemple, qui a été très, très peu chassé. Donc on peut imaginer là aussi qu'il y a quelque chose, comme on voit dans les sociétés totémiques, qu'on ne chasse pas son totem, le totem du clan, etc. Donc il y a un tabou là, alimentaire. Donc peut-être que déjà dans ces sociétés aussi, il y aurait, en fonction des différentes, bien sûr, sociétés qui n'ont pas les mêmes cosmogonies, mais peut-être là des tabous alimentaires par rapport à notamment ne pas consommer telle espèce, alors qu'elle n'est pas plus difficile à chasser, etc., que ça ne peut pas être expliqué par autre chose. On constate qu'elle n'a pas été chassée. Donc ça, c'est des données intéressantes qui montrent qu'il y avait peut-être déjà une relation à certaines espèces animales qu'on ne mange pas, parce que c'est peut-être l'ancêtre, c'est peut-être, je ne sais pas, une divinité, enfin, on prend tous les termes qu'on veut. Mais c'est un constat. Donc peut-être que déjà, par contre, pour les tabous alimentaires, il y avait peut-être dans certaines sociétés, hein, je précise toujours, pas dans toutes ces sociétés. Donc c'est des choses déjà très intéressantes qui sont quand même très anciennes.
Alors le troisième et dernier moment de notre discussion, et après c'est à vous, de bien sûr, vous allez poser vos questions et on va continuer la discussion avec le public. On a, premier moment, c'était qu'est-ce qu'un tabou, deuxième moment, c'était questionner les origines, hein. Et puis troisième moment, la question des fondements, donc à quoi servent les tabous, même si on a déjà un petit peu évoqué ces questions, quelle est leur fonction, fonction individuelle, fonction sociale, et puis faut-il des tabous, sont-ils toujours bien légitimes, est-ce qu'on peut briser les tabous, hein. Qui souhaite prendre la parole sur ce premier point, et puis j'aurai un dernier moment aussi, je voudrais reprendre aussi, écoutez, je vais commencer par là, peut-être que je ne vais pas vous faire de commenter Freud, mais si j'ai bien compris Totem et Tabou, l'idée qu'il avance, c'est de dire que les tabous en fait portent sur des désirs, et que en fait ce qui est interdit est ce qui anime chacun d'entre nous, ce qui animait chacun d'entre nous au plus profond de son inconscient, et que le refoulement va faire que on va chasser cela de notre conscience, ça va devenir une sorte, je fais du Freud de bas étage, excusez-moi, on va refuser et ça va devenir un interdit, mais l'interdit porte en fait, c'est ça que je veux dire, sur ce qui est profondément désiré en l'homme en fait, donc c'est ce qu'il il soutient. On se demanderait pourquoi ce mécanisme, et donc si j'ai bien compris dans ma lecture, en fait l'interdit va porter sur ce qui va permettre le vivre ensemble, et donc la morale commune vise à une utilité collective, de là l'interdit. Est-ce que ça fait sens, Bernard, je me tourne vers vous, est-ce que ça fait sens pour vous, l'idée, oui, ça je suis assez toujours étonné quand on lit Freud, c'est de se dire que le plus terrible est au plus profond de l'être humain. Il y a une vision très très noire, hein, très pessimiste, enfin peut-être pas pessimiste, mais en tout cas noire de la nature humaine.
Alors, moi je n'irai pas, je ne suivrai probablement pas Freud sur ce point, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. On va prendre un autre personnage, pensez à Ulysse. Quand Ulysse veut entendre les sirènes, mais c'est dangereux, il va se jeter à l'eau s'il les écoute. Donc il se fait attacher à son poteau pour les écouter. C'est un peu la même métaphore, c'est-à-dire qu'il se lie par quelque chose qui va l'empêcher de transgresser une norme ou de faire un acte qu'il réprouve. Mais je pense que la morale, notamment, les normes, ont ce rôle-là. Hein, ont ce rôle-là. Dans le fond, et là, ça rejoint peut-être un peu Freud. On a certains désirs un peu inavouables et on veut s'en prémunir. Et on croit qu'on s'en prémunira, d'autant mieux qu'on affirme plus fortement qu'il faut lutter contre. D'où, par exemple, les invocations continuelles, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais des droits de l'homme. Voilà. L'invocation actuellement, depuis la dernière guerre, de la dignité, qu'on invoque à tout moment, et particulièrement quand on est d'ailleurs à court d'arguments. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans les discussions morales, souvent, elles se terminent en disant « Ah, mais c'est contre la dignité humaine. Voilà. » On a comme ça des drapeaux rouges, soit positif, on invoque la dignité, on invoque les droits de l'homme, soit négatif, comme quand on dit dans le domaine de l'éthique, oulala, c'est de l'eugénisme. Et ça bloque la discussion, il se présente une espèce d'interdit massif qui a pour but, dans le fond, de nous attacher, quoi, de nous tenir en bride, parce que d'une certaine manière, on a un peu peur de soi-même, hein. On a un peu peur, ou du moins de soi-même ou des gens qui nous entourent, qu'il y ait des passages à l'acte. Donc ça, je pense, Freud, si c'est ça dont il veut parler, je pense qu'il a raison, en partie, en tout cas, enfin, on va voir. Une des fonctions, surtout de l'éthique, je dirais, post-chrétienne, pas l'éthique grecque, qui est très différente. Dans l'éthique grecque, le mot « devoir » n'existe pas, par exemple, ce qui surprend pas mal de gens. Le mot « droit » n'existe pas non plus. L'obligation n'existe pas. Il y a simplement des comportements désirables, ça s'appelle les vertus. Hein. Et avec le mélange et l'apport hébraïque ou qui a une morale extrêmement rigide, hein. Sont apparus des concepts comme la loi morale, le droit moral, etc., et des interdictions absolues, qui, alors, chez pour les philosophes, culminent avec Kant, d'une certaine manière, même s'ils n'expriment pas de manière négative, et qui, à mon avis, disons, je pense que ce n'est pas tout à fait faux, que c'est, dans le fond, des discours qu'on s'adresse à soi-même pour se garder, d'une certaine manière, de la faute. Hein. Je ne sais pas si j'ose le dire, mais moi, je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait un cardinal qui s'appelle cardinal Danielou, qui était connu pour ses discours extrêmement...
En Suisse.
C'était un Français.
En France.
Ouais. On a eu très peu de cardinaux en Suisse. On est un petit peu calviniste là-bas. Hein. Donc qui était connu pour ses prises de position extrêmement fortes, contre notamment les mœurs sexuelles de l'époque, et qui a trouvé la mort dans une maison close. Donc, on a, et après coup, on s'est dit, à part ça, c'était un grand intellectuel, quelqu'un vraiment de remarquable, mais on s'est dit, on a l'impression qu'il parlait un peu contre lui-même quand il faisait ses discours. Et je pense que c'est quelque chose qui psychologiquement fait sens, en tout cas.
Et quelle est la fonction, alors, du coup, de cet interdit qui va à l'encontre de mon désir, finalement? Et est-ce que ça porte sur tous les tabous? Parce que le cannibalisme, par exemple... Le désir,
c'est là que compliqué. J'ai de la peine à suivre Freud. Ouais. J'ai pas l'impression que j'ai jamais eu. Enfin, évidemment, on me dira si c'est refoulé. C'est le problème avec l'interprétation freudienne. Si c'est refoulé, on peut justifier n'importe quoi sur le principe. Hein. Mais ça m'apparaît plausible pour la morale courante, beaucoup moins pour ces choses un peu. Ces tabous un peu héroïques, si j'ose dire.
Laissons de côté Freud. Quelle est la fonction pour toi essentiel alors de ces interdits?
C'est de permettre l'interaction sociale, la coopération sociale et la survie du groupe. D'accord. Ça, moi, j'ai une explication qui est darwinienne classique, quoi, j'entends. D'accord. On a besoin de normes pour vivre en groupe. L'être humain norme continuellement. Hein. J'imagine dans la préhistoire, si j'ose employer encore ce terme, il y avait des normes de fabrique technique pour la fabrication des outils. Enfin, il y a des normes épistémiques pour le langage. Et il y a des normes morales pour le comportement. On est des êtres normatifs fondamentalement, pas uniquement, mais en bonne partie.
Oui, non, moi je voulais. Moi ça me gêne un peu certains passages des textes de Freud. Je ne viendrai pas sur la horde primitive, qui est une construction assez complexe, où je ne suis pas d'accord, comme s'il n'y avait qu'une horde primitive, enfin, et sur le cannibalisme, on y reviendra. Mais là, je voulais, par exemple, justement, le cannibalisme est l'exemple de l'inverse, c'est-à-dire que c'est lui qui, en fin de compte, le fait de faire manger à tout le monde un peu de la personne qui a été tuée, c'est faire partager le meurtre. Donc au contraire, ça c'est un lion très très fort. Donc c'est pas l'interdit qui va favoriser, qui va resserrer les liens dans toute la communauté. C'est au contraire la considérer pas comme justement interdit, qui n'est pas donc un tabou, qui nous apparaît à nous tabou, mais qu'en réalité est un lien qui fédère. Et ça, c'est très 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 important à mon avis. Je pense que j'ai l'impression que les tabous ont été mis plus tardivement pour instaurer, notamment avec justement les croyances, qui ont vraiment, à mon avis, c'est elles, quelles qu'elles soient, hein, je ne vais pas spécialement parler de la chrétienté, mais qui ont apporté quand même, voilà, qui ont codifié d'une façon très sévère quelque part, même s'il y en a qui les transgressent, voilà, qui ont amené tous ces interdits pour fédérer, pour vivre ensemble. Mais j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose de très ancien. Plus une construction intellectuelle pour appuyer une idéologie. Voilà. Alors peut-être je me trompe complètement, mais d'aller toujours chercher en disant au fond de l'humain, c'est tout noir, etc. Donc c'est pour. Je suis gênée parce que ça c'est ce qu'on veut nous dire, mais c'est peut-être mon côté hyper science dure, hein, c'est physiologie et biologie, mais de toujours vouloir nous. Non, je pense que c'est peut-être plus des constructions plus tardives qui essaient de nous expliquer ça, mais qu'en réalité, c'est pas forcément ça. Et qu'il y a peut-être, je crois plutôt que beaucoup d'interdits ont été mis pour asseoir des idéologies. Voilà, pas parce qu'on est noir au fond de nous. Je pense que c'est plutôt.
Ne servent pas l'intérêt du collectif, mais servent l'intérêt de quelques-uns.
De quelques-uns qui vont vous faire croire, etc. C'est ce que j'appelle, voilà, de vouloir faire passer une idéologie et de nous obliger à dire, mais en fin de compte, que c'est la meilleure solution, que c'est ça qui nous permettra d'être mieux ensemble. Je ne suis pas convaincue. Voilà, c'est un peu comme ça que
est-ce que vous tiendriez ce propos à propos des différents tabous? Est-ce qu'il y aurait des tabous, enfin des conduites, allez, des conduites, je ne vous dis pas auxquelles je pense, mais qui échappent à ce propos? Bon, si je pense à l'inceste, par exemple, ce sera le sujet de la discussion prochaine. Je pense à la pédophilie.
Oui, et là justement après.
La zoophilie, voilà. Quoi que, là c'est peut-être on peut.
Ouais. Non, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est extrêmement délicat. Mais là, en fin de compte, c'est quelque part, l'idéologie n'est pas toujours mauvaise. Voilà ce que je veux dire. Donc, je veux dire, voilà, c'est le terme maintenant est un peu péjoratif, mais en réalité, c'est ce que disait Bernard, le mieux vivre ensemble. Donc voilà, on s'est aperçu que justement la pédophilie, etc., conduisait à la maltraitance, conduisait, etc. Donc on va créer là quelque chose qui va essayer de faire comprendre, et puis après des lois si les gens ne comprennent pas. Mais c'est aussi parce qu'on crée cette morale, cette philosophie, bon, qu'on n'appelle pas idéologie, mais c'est quand même pour essayer d'imposer quelque chose quand même quelque part. On va décréter, et c'est pour ça qu'il y a des batailles terribles pour l'inceste, sur l'âge, sur la pédophilie, sur l'âge. Parce que l'inceste, il y a plein de sociétés où voilà, l'oncle, c'est souvent lui qui maternel, qui déflorait la petite fille, etc. Donc je veux dire, c'est très 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 compliqué. Donc, mais ce que je voulais dire par là, par rapport à Freud, c'est ça, que je ne peux pas tout ramener. Enfin, je crois que on a une tendance à tout ramener, à dire dans l'humain, je ne suis pas voilà.
Sur l'inceste, justement, est-ce que dans vos études, il y a des sociétés, des clans, dans lesquels, par exemple, je pense à certaines tribus étudiées par Françoise Héritier, où par exemple les pères n'existent pas.
Ben oui, bien sûr, bien sûr.
Et il y a des sociétés comme ça où il peut y avoir du coup des relations entre le père génétique, et l'enfant. Est-ce que ça, on arrive
Je pense que ça peut arriver. Pour l'instant, au niveau génétique, bon, on n'a pas fait l'ADN non plus de tous les squelettes qu'on a, hein, parce que des fois le collagène n'est pas conservé, donc on a. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit justement que cette notion, on a un vrai débat, des vraies discussions sur de savoir à partir de quand les humains prennent conscience que les deux C'est-à-dire l'homme et la femme participent à la reproduction. C'est la vraie question actuellement qu'on se pose, parce que c'est important sur les structures sociales, notamment les rapports hommes-femmes, parce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, est-ce que certains disent c'est instinctif et tout, l'homme il sait forcément qu'il participe et tout, et il y en a qui disent pas du tout. On a plein de cas où dans certaines sociétés on pensait que la personne avait été au bord de la rivière, il y avait eu un djinn, un esprit, je ne sais pas quoi, et qu'elle avait été fécondée comme ça. Donc il y a tous ces mythes autour de ces fécondations.
Et du coup, il n'y a pas de père. Notion...
De toute façon, moi, je pense sincèrement que dans ces sociétés très anciennes, là, du paléolithique, dans ces sociétés de clans qui sont des petites structures, c'est là que ça change quand on parle de grandes structures. Mais des petites structures, comment voulez-vous ? La seule chose qu'ils voient, c'est que l'enfant, il sort du ventre de la mère. Si nous, on constate qu'il y a la consanguinité, donc il y a une promiscuité aussi dans ces clans, donc c'est clair qu'il y a ces multipartenaires. Voilà, et c'est bien au niveau darwinien, c'est bien pour le succès.
Je veux dire, du coup, vous avez parlé de consanguinité oncle et tante, mais pas de père.
Alors, pour l'instant, on n'a pas. Mais non, je veux dire, c'est pas, voilà, pas. L'absence D'accord. n'est pas une preuve, encore moins la preuve de l'absence, c'est ce qu'on dit. Mais donc, pour l'instant, on n'a pas. Mais on sait quand même, on a des groupes, on a, parce que justement des personnes qui sont mortes tuées pour un rite cannibale, et donc on a toute une population de 13 individus, et c'est là qu'on a mis en évidence justement la consanguinité. Et donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant de voir que soi-disant ces tabous universels ne le sont pas forcément, justement, en tout cas pas dans le temps.
Juste une anecdote. Parce que c'est vrai, quand on parle de l'inceste, si on prend l'exemple de l'inceste, maintenant on peut rationaliser ça en disant on fait du tort à l'enfant, hein, on n'est pas obligé d'avoir des explications de type darwinienne, mais on se rend compte que ce tabou, il opère des fois de manière étonnante dans nos sociétés, puisque dans les débats sur le don de sperme et l'anonymat lié au don de sperme, certains ont craint que si on ne sait pas qui est le donneur de sperme, il risque d'y avoir des relations incestueuses sans que les gens s'en rendent compte. Et ça, c'était un argument contre l'anonymat. Donc, on voit que là, s'il y a incest, il est encore vivace dans nos sociétés.
Bien, écoutez, il est temps de vous donner la parole. Vous avez, je pense, des micros qui vont passer dans les couloirs, dans les allées, excusez-moi. Donc n'hésitez pas, je vais vous citer juste en attendant Salomon. J'ai trouvé cette citation intéressante dans Orpheus, l'histoire des religions de Salomon Reynard. On est, sauf erreur, fin 19e, début du... Oui, c'est ça. Le passage du tabou à l'interdiction motivée, raisonnée, raisonnable, c'est presque l'histoire du progrès de l'esprit humain. Donc, voilà, c'est... Alors, oui, vous avez des micros qui vont passer dans les allées, donc n'hésitez pas. Ce qui est toujours plus difficile, c'est la première question. Mais s'il y a déjà... Ah ben voilà, il y a une question là-haut. Et puis ensuite, monsieur ici.
Merci, bonjour. C'est bon ? Oui. Question. Vous parlez de petites structures. Donc là, je m'adresse à Marilène Patoumatis. Et vous parlez de petites structures et de consanguinité dans ce que vous découvrez. Mais au fond, qu'est-ce qui permet de savoir si ces petites structures échangeaient avec d'autres structures, à quelle distance elles sont d'autres structures ? Est-ce que les recherches d'aujourd'hui, parce que mon savoir date un peu, est-ce que les recherches d'aujourd'hui permettent de savoir quelles sont les distances entre ces petites structures, si elles sont contemporaines, et donc si vraiment il n'y a pas d'échange ? Et je partage tout à fait votre réaction par rapport à la horde de Freud.
Alors, vous avez tout à fait raison. Là aussi, dans certaines sociétés, parce qu'on voit dans d'autres sociétés préhistoriques que l'on a toujours aussi grâce à l'ADN, on voit qu'il y a la patrilocalité. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on voit que dans le groupe, il y a des femmes sont venues. Ont changé de clan, c'est-à-dire qu'elles ont quitté leur clan de naissance pour venir dans ce clan-là. Donc ça veut dire qu'il y a des échanges. Hein, et on va même aller plus loin dans ces échanges, puisqu'on sait très bien qu'on a, là aussi grâce à la génétique, c'est pour ça qu'on a beaucoup avancé sur ces questions-là qui étaient pour nous pendant très longtemps difficiles. On a montré, par exemple, du fait que les Néandertaliens avec les sapiens, les premiers sapiens, avec les Denisoviens, c'est une troisième groupe, peu importe, il y a eu des croisements. Donc là, ça va même au-delà même de simples clans, ça va même au-delà, puisqu'on est en train de débattre sur la notion d'espèce en disant, mais c'est quand même bizarre, parce que plus ça va, plus on voit qu'il y a des croisements, alors qu'on dit que c'est des espèces différentes, peut-être c'est des sous-espèces, enfin peu importe. Toujours est-il que là, donc il y a les échanges. En plus, on voit très bien les échanges, on voit très bien les nexus, les relations, parce qu'on travaille beaucoup sur l'origine des matières premières, par exemple, que ce soit les matières premières pour les outils, ou que ce soit les parures, etc. Et on voit qu'il y a des échanges comme ça qui ont été faits entre les clans, entre les structures, parce qu'on a, par exemple, des coquillages qui sont des coquillages de Méditerranée, qui se retrouvent dans des sites qui sont en plein continent. Par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé en Ukraine, bon, qui sont dans la grande plaine ukrainienne. Donc, on voit qu'il y a eu ces échanges. Donc, on peut difficilement imaginer des échanges seulement d'objets, probablement donc des échanges, comme on voit, génétiques, donc de changement de partenaire. Donc, c'est pour ça que c'est très... J'insistais sur ce côté, je combats cette essentialisation en permanence, parce que voilà, on a déjà une très grande diversité. Donc je pense qu'il y avait des clans où on voit très bien que là, ils sont plutôt un petit peu entre eux, etc. Puis alors qu'il y en a d'autres, au contraire, on a un système beaucoup plus large d'échanges. Donc on a un peu de tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'on ne peut pas résumer, voilà, comme veut le faire Freud, à dire, bon, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, c'est déjà très complexe, et on a une grande diversité des comportements, en fin de compte.
Une question de monsieur qui est là.
Bonjour. Est-ce qu'on ne peut pas parler au sujet des tabous de relativisme social ? Alors, je pense à deux exemples. Dans l'Égypte antique, le fait que les pharaons parfois se reproduisaient avec leurs sœurs. Et puis, dans des sociétés cannibales, enfin, qui pratiquent le cannibalisme, on s'aperçoit généralement que ce n'est pas une pratique pour l'ensemble du groupe. C'est une pratique qui est réservée aux élites pour s'attribuer éventuellement. Bon, on cherche des explications, mais c'est uniquement une toute petite partie de la population qui pratiquerait le cannibalisme alors que le reste de la population ne serait pas concerné.
Donc finalement, est-ce que à travers ces deux exemples, le terme de relativisme, est-ce que, Marilène, est-ce que vous êtes, est-ce que votre science vous conduit à effectivement peut-être une position relativiste selon laquelle tabou au nord des Pyrénées, je paraphrase Pascal ici, et oui, liberté
moi,
au-delà.
Bien sûr, moi, c'est un peu ce que je disais pour mes sociétés très anciennes, c'est-à-dire que il faut éviter de penser que tout est uniforme, et je crois qu'il y avait des grandes diversités. Là, c'est pareil pour le cannibalisme. Bon, quand j'ai pas mal travaillé sur ce sujet, donc je me suis plongée un peu évidemment dans le cannibalisme des sociétés, enfin rapporté en tout cas par des ethnologues, et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu surprenantes. Ou peut-être que certaines catégories ou certains individus du groupe étaient exclus, c'est plutôt dans ce sens-là, mais dans d'autres non. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas une réponse, quoi. Il n'y a pas, malheureusement, ça serait un peu simple, on aurait trouvé, hein, il n'y a pas une cause, quoi. C'est multiple et c'est une grande diversité. Et c'est pour ça que là, on parle beaucoup de nous, de l'Occident, mais en réalité, moi j'ai vu pour les périodes plus anciennes, avec l'Asie, c'est déjà très différent, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes cosmogonies. Oui. Là aussi, il y aura à creuser pour voir un peu ces histoires de... Moi, je ne connais pas, hein, je ne sais pas, Bernard, justement, les tabous, est-ce que c'était si prégnant que chez nous ? Enfin, voilà. Donc, là, on est toujours européocentré, quand même. Enfin, pas nous spécialement, mais je veux dire, dans ces questions-là. Mais une plus grande diversité, je pense.
Et Bernard, si je peux me permettre de reformuler la question pour le philosophe, même si le fait plaiderait en faveur d'un relativisme, est-ce que l'éthicien, le philosophe, en ferait une règle morale? C'est-à-dire, finalement, est-ce que il faut, à ce moment-là, chacun fait comme il veut de chaque côté de la frontière, ou est-ce que tu plaiderais, et pourquoi, pour un universalisme, par exemple, de certaines des règles, finalement? Est-ce qu'on ne pourrait pas, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, dire que les droits humains, des droits de l'homme et de la femme, autre manière de le dire, on ne pourrait pas interdire l'inceste, interdire... Est-ce que, du fait, on ne peut pas porter un jugement sur le légitime?
Dans cette question du relativisme versus l'universalisme, qui est une vieille question, je pense qu'effectivement, il faut faire un certain nombre de distinctions. D'abord, même s'il y a des tabous dans toutes les sociétés, ce qui reste à démontrer, ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes tabous. Et ça peut, si c'est des tabous très différents, évidemment, il n'y a pas plus d'universalisme. Enfin, le fait du tabou est peut-être universel, mais pas du tout des tabous particuliers. Idem pour la morale, d'ailleurs, ou l'éthique. Il y a de l'éthique au sens des normes comportementales dans toute société, parce qu'on imagine difficilement comment ça peut fonctionner différemment, mais ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes normes. Alors nous, on est effectivement dans notre société, dans notre tradition, on n'en a pas parlé encore, mais on est passé par les Lumières. Et la Déclaration universelle des droits qu'on appelle maintenant humains, elle date de cette époque. Et c'est un moment où on pense effectivement qu'il y a une nature humaine universelle, enfin qu'on est tous de la même pâte. C'est ce qui a permis aussi de lutter, il faut savoir, il y a des avantages à ça. Ça a permis de lutter contre l'esclavage, ça a permis d'affirmer l'égalité de l'homme et de la femme. Ça a permis aussi de parler des droits des enfants. Enfin, l'universalisme, on y tient beaucoup parce que ça a permis des avancées morales. Alors maintenant, la mode, c'est de parler de valeurs. On parle des valeurs universelles, mais elles sont souvent tellement abstraites quand on dit justice, liberté ou autre qu'il faudrait voir encore si on met le même contenu. Donc là encore, j'entends, il y a un degré d'universalisme si on reste au niveau très abstrait. Quand on entre dans le détail, on se rend compte qu'il y a des grosses différences et que, pour prendre un exemple très simple, dans nos sociétés, on est très attaché aux libertés individuelles, même si avec la crise de la Covid, on se rend compte qu'on ne met pas tous le même poids à cette liberté. Mais on est tous aussi d'accord que les droits de la personne humaine sont des droits pour protéger l'individu contre l'emprise du groupe et de l'État. C'est d'ailleurs comme ça que c'est sorti au XVIIe siècle. Mais si vous faites... Donc, on ne sera pas d'accord de sacrifier l'individu pour une cause commune, en général. Il y a des exceptions avec la guerre et autres, peu importe. Si vous faites la même étude en Corée du Sud, vous avez des résultats complètement différents. Et pour reprendre l'exemple du wagon fou dont je vous parlais auparavant, eh bien, en Corée, ils sont, parce que l'expérience a été faite, ils sont moins réticents à pousser le gros homme que nous, parce qu'ils voient plus le résultat en termes, je dirais presque, de santé publique, c'est-à-dire de nombre de vies sauvées. Qui a raison? Bon, personnellement, moi, je plaiderais plutôt pour une forme de pluralisme. Il y a sans doute des systèmes moraux qui sont inacceptables, parce qu'ils reposent sur l'inégalité de chacun, etc. Mais parmi les systèmes moraux acceptables, il y en a plusieurs. Et ça n'a pas vraiment de sens de dire que l'un est meilleur et que tous les autres sont mauvais. De la même manière qu'au niveau politique, on a différentes formes de démocratie. La démocratie française n'est pas la même que la démocratie allemande ni que la démocratie suisse. Ça ne veut pas dire que l'une est meilleure que les autres. C'est trois manières différentes de gérer la liberté des individus dans une communauté.
Guillaume, si vous le permettez, j'aurais juste ajouter, parce que je ne veux pas qu'on se méprenne, moi je pense justement qu'il y a un point où il faut qu'on soit intransigeant, c'est-à-dire quel que soit, qu'on ne nous sorte pas des histoires de tradition, je pense qu'il faut qu'on soit là justement à défendre des valeurs. Pour moi, l'intégrité de la personne, son intégrité physique et morale, c'est ça. C'est ça. C'est là où, si c'est touché, Je pense que là, nous devons proposer autre chose ou critiquer ou rejeter. Je pense à l'excision, par exemple. Je veux dire, voilà, y a maintenant, je pense qu'il faut bien faire attention à ça. C'est-à-dire que pas tomber, parce que là, en ce moment, on voit bien que tout commence à basculer dans un sens ou dans un autre. Et moi, je pense qu'il faut faire attention. Il y a quand même ces valeurs-là, c'est-à-dire la valeur de la personne et son intégrité. Je pense que c'est, si on doit mettre quelque part peut-être des interdits, c'est là. On ne doit pas toucher à cette intégrité de la personne, sous prétexte de c'est comme ça depuis toujours, comme j'entends souvent depuis toujours. Non, je crois que peut-être il faut quand même. Voilà, je sais pas si c'est. Moi, je ne suis pas philosophe, j'en peux pas forcément les mêmes concepts. Donc, si c'est vraiment dans cet universalisme ou pas. Mais je pense que là, oui, parce qu'on a quand même montré tous nos travaux, etc., qu'on a fait depuis maintenant quand même des années en paléanthropologie. On a bien montré qu'il y avait cette notion de race, par exemple, n'avait pas de sens. Voilà, qu'au niveau biologique et tout, il y a qu'une espèce humaine. Et même des fois, il y en a eu plusieurs en même temps, mais qui étaient des espèces humaines. Et donc, et ça, c'est important. Donc, on peut à ce moment-là dire que cette espèce humaine, enfin, la personne qui appartient, ne doit pas, on ne doit pas atteindre à son intégrité. Donc là, je pense que c'est peut-être la seule chose où je me permettrais de mettre là une interdiction, un tabou, ce que vous voulez. Parce que ça, je crois que c'est quand même important de ne pas tomber en disant chacun fait comme il veut et chez soi. Ben non. Non, moi, je pense qu'il y a des fois où il faut quand même un peu réagir, peut-être.
Il y a un bon critère qui vient un peu des Lumières, c'est de dire que, dans le fond, une norme est acceptable si les personnes qui sont soumises l'acceptent.
Voilà. Oui, mais bon, enfin, des fois, il y a la servitude d'accepter.
Je ne dis pas que ça résout tout, hein, oui. Mais je pense que c'est un premier critère.
Parce qu'il faut se rendre compte, voilà, il y a des fois, il y a une telle pression de la tout société ou de groupe que c'est difficile, la personne ne se rend pas forcément compte.
Il faut rajouter, être acceptable en utilisant des arguments rationnels.
Oui,
mais bon,
ça
on finit par justifier ce qu'on fait nous.
Voilà, c'est ça.
Oui, alors une autre question, oui. Tout en bas.
Bonjour. J'ai l'impression qu'il y a un des aspects importants du tabou, c'est qu'il doit rester en impensé et que l'objet tabou, c'est à la fois l'acte lui-même, mais aussi toute la réflexion qu'on peut porter sur le tabou. Et pour prendre un exemple concret, si par exemple, j'essaie de réfléchir honnêtement aux raisons qui font que la nécrophilie dans ma société, c'est quelque chose qui ne doit pas être pratiqué et que je me questionne et que je questionne des gens autour de moi, on va directement me considérer comme quelqu'un de monstrueux. Donc ma question, c'est pourquoi le tabou doit rester en impensé ?
C'est ce que, alors je m'excuse de revenir à Freud encore, mais c'est ce qu'il exprime bien, je trouve, dans cette, effectivement, ça doit rester impensé, et que celui qui ose être traversé dans son esprit par l'idée va être taxé par les autres tout de suite, c'est l'infamie, quoi, d'emblée. Donc, effectivement, on ne doit pas le penser, chercher à le justifier, c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas toucher. Et effectivement, c'est un peu l'expérience qu'on a par rapport à des tabous comme la nécrophilie, la zoophilie. Au 19e, 18e, la masturbation, hein, quand on disait c'est le plus grand interdit, pour preuve, on n'en parle pas, on doit pas le nommer. Hein. Donc, voilà. Donc, y a quelque chose, effectivement, de cet ordre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci pour cette question qui vraiment requalifie bien et spécifie le tabou.
Juste pour rebondir, je n'ai pas la solution, hein, mais tu as parlé de la masturbation. C'est intéressant, la masturbation, parce que il y a. Alors, on peut se demander si c'est un tabou. Ou pas, mais le fait est que très rapidement, au 18e siècle, on a essayé de donner des raisons médicales pourquoi la masturbation était mauvaise. Et on trouve plein au 18e siècle de certificats de décès, cause du décès masturbation. Voilà. Ça nous apparaît un peu bizarre, mais ça montre peut-être quelque chose d'intéressant, c'est que quelque chose qu'on n'arrive pas à justifier, qui est l'ordre du dégoût plus ou moins spontané, on cherche ensuite des raisons pour arriver à l'expliquer, alors que peut-être qu'il y a des espèces de dégoût quasiment biologique, je ne sais pas, qui, qu'il faudrait peut-être accepter comme ça, mais je n'ai pas de réponse. Hein. Mais effectivement, ce que vous dites est tout à fait pertinent, je trouve.
Et alors, celui qui cherche à justifier, même à en parler, est, tu vois, entaché par l'objet même. C'est-à-dire, si dans la discussion, on parle de nécrophilie à table, celui qui en parle, voilà, est déjà condamné par le simple fait d'en parler. Tu vois, c'est ça qui est assez intéressant, et encore aujourd'hui, sur certains objets. Vous avez parlé de la nécrophilie, ça, bon, c'est pas un sujet de repas, mais la zoophilie, de la même manière, oui, la zoophilie, il existe un film, j'aurais voulu vous le diffuser.
Mais qui pourtant est pratiqué, était pratiqué largement, la zoophilie, dans les campagnes.
Ah, alors là, tu m'apprends quelque chose, Bernard. Dans les campagnes, la zoophilie.
Ah, ben moi, j'ai en tout
campagne
cas,
suisse.
Peut-être suisse. Non, mais enfin, j'avais vu une fois une étude, j'ai pas creusé la chose, mais qui semblait dire. Même dans les films de Fellini, d'ailleurs, il y a des cas, ou de Pasolini, je me rappelle plus. Je pense que, enfin, moi, j'avais lu que la zoophilie n'était pas du tout une pratique rare. À vérifier, hein, je veux dire. Mais
vous avez un film qui est très difficile à trouver, qui s'appelle Zoo, hein, qui avait été diffusé au Festival de Cannes et qui montre l'origine aux États-Unis de la loi interdisant la zoophilie. Et ce sont donc des fermiers américains, perdus dans je ne sais plus quel état, et qui avaient des relations avec leurs chevaux, hein, et qui vont finir à l'hôpital parce qu'ils vont évidemment se détruire tout un tas de. Et c'est ce qui va donner lieu à une interdiction, à une loi contre la zoophilie. Hein. Mais oui, ce sont des raisons finalement de santé publique presque. Bon, même si c'était pas tous les villageois, tous les paysans. Bon, on a changé un petit peu de discussion. Merci pour votre question. Oui, il y a une question là-bas.
Oui, bonjour. Je me demandais si, je voulais vous demander si pour vous le concept de tabou pouvait pas avoir une fonction un peu de contenant de la violence humaine.
De sorte de explicité.
Bah, c'est-à-dire que, a priori, l'inceste c'est quand même la violence absolue, la soumission absolue de l'autorité. Le cannibalisme, ça renvoie à la possession totale de l'autre. Donc je me demandais si ces interdits fondamentaux pouvaient pas, ces tabous fondamentaux pouvaient pas avoir un rôle de contenant de la violence humaine.
Est-ce que les tabous, leur rôle ne serait pas effectivement d'empêcher, d'entraver, de protéger les sociétés, les individus d'une violence physique, morale?
Oui, alors moi, ce qui m'interpelle toujours dans ce questionnement-là, c'est qu'on ramène toujours à quelque chose qui, pour moi, n'est absolument pas prouvé, que l'humain est foncièrement violent. Quoi. J'ai fait un livre sur l'origine de la violence et de la guerre, et pour montrer que c'était très rare dans les sociétés très anciennes du paléo, pour des raisons. Pas parce que c'est des bisounours, mais parce que justement les raisons qui provoquent les conflits n'étaient pas là, quoi. C'est-à-dire la faim, les territoires, etc. Mais pourquoi, voilà, c'est-à-dire qu'on sous-entend forcément que l'homme est mauvais, que l'humain est mauvais, qu'il est violent, qu'il faut canaliser. Et je suis toujours un peu, parce que j'ai l'impression que souvent, elle est provoquée, elle est construite, cette violence. C'est-à-dire que on va la provoquer quelques-uns, bien sûr. Je ne veux pas dire que personne n'a de violence en soi, bien sûr. Mais c'est ça qui me gêne, c'est-à-dire qu'on part de ce présupposé que nous serions tous. Et pas seulement quelques-uns, tous violents intrinsèquement.
Mais est-ce que, alors sans parler de cette violence.
Je ne parle pas de l'agressivité, hein, qui est nécessaire à la survie, mais je parle de la violence.
Sans parler de cette violence intrinsèque, est-ce que, pour reprendre la question, est-ce que la fonction du tabou serait de protéger chacun d'une violence physique, morale? Un exemple, voilà, le fait d'interdire le cannibalisme m'empêche de sauter sur mon prochain pour essayer d'en faire mon prochain repas. Donc, et réciproquement. Donc, effectivement, on peut se promener dans la rue sans avoir peur de se faire manger par l'autre.
Donc, est-ce que... Oui, mais ce goût de l'autre, si j'ose dire, il est culturel. C'est-à-dire que c'est pas, je ne crois pas qu'à part quelques pathologies, etc., évidemment, il y a toujours des pathologies, mais sinon, il est quelque part... voilà, un peu dû à un environnement particulier, culturel, à d'autres problèmes. C'est-à-dire que on l'a donné, c'est la société, enfin c'est la société, je veux dire, c'est l'environnement sociétal, c'est l'environnement extérieur de l'individu quand même qui va engendrer. Je pense simplement l'histoire de pour revenir à la violence, c'est le fait que dire vous n'êtes pas bien, là, là, ça ne va pas, vous n'êtes pas bien, c'est la faute à un tel ou c'est au groupe un tel. Donc on va construire d'un seul coup, vous allez dire, ah oui, en fin de compte, il faut que j'aille leur casser la figure ou les tuer parce que c'est à cause d'eux que je ne suis pas bien. On construit cette violence. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis pas sûre que de nous-mêmes, on irait casser la figure à l'autre si on ne nous disait pas, si on n'avait pas autour de la figure de l'autre construit quelque chose quoi, qui fait qu'on va envie de le détruire.
La violence est déjà un jugement moral, normatif sur le tabou. Bernard, qu'en pensez-vous ?
Oui, moi je pense, si on prend l'exemple du cannibalisme, en tout cas, dans la vie ordinaire, il y a d'autres choses à manger. Il y a, dans le fond, qui sont, je ne sais pas quel goût ça a, mais je veux dire, qui de probablement poulet, sont plus adéquates. Et on se rend compte que dans des cas de certains cas de cannibalisme historique ont été déclenchés par des famines très importantes, comme lors de la fin du premier empire égyptien, oui, où on a des textes des
gens mangeaient
leurs enfants, etc. Mais ce sont des situations évidemment complètement extraordinaires dans lesquelles se développe ce genre de comportement. Et je ne sais pas ce que le tabou vient faire là-dedans, enfin, s'il a encore un sens là-dedans.
Et certains tabous ne sont pas liés à la violence. On parlera tout à l'heure et ce soir de la sexualité dans les EHPAD. Le lien avec la violence, je ne vois pas trop.
Est-ce que c'est un tabou ? Enfin, je ne vais pas.
Est-ce que c'est un tabou ? Ça, c'est sûr.
Est-ce qu'il faut appeler tabou tout comportement qui nous dérange ? Parce que pour finir, c'est un peu ça. Hein. On a l'impression qu'on lui donne une espèce de sanctification. C'est un tabou. Ça. Donc, on n'en discute plus d'une certaine manière. C'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas d'argument. Hein, on est un peu à court d'argument. On dit oulala, c'est un tabou. Et c'est vrai qu'on se fait mal voir quand on les questionne. Hein. Si on vous parle, je fais de l'éthique, alors de la dignité humaine, et quelqu'un vous parle de non, c'est pas possible à cause de la dignité humaine. Puis je lui demande qu'est-ce que vous entendez par là, je me fais mal voir en général. Hein. Donc parce qu'on questionne quelque chose qui devrait pas être questionné, mais peut-être simplement parce que la personne qui utilise l'argument n'a pas de bon argument. Auquel cas, c'est très socialement construit. Tout
mais voilà, tabou. C'est ça, c'est socialement construit.
Une question là-bas, oui. Ah, excusez-moi, et puis une question là. Alors attendez, le micro, je ne sais plus où il est. Bernard Branger, excuse-moi de te nommer, là tu as perdu ton anonymat, mais bon.
Oui, est-ce que le passage de la période des chasseurs-cueilleurs à la période de sédentarisation et de l'agriculture a nécessité la mise en place de tabous qui nous concernent aujourd'hui ? Je pense que la sédentarisation, l'agriculture a nécessité l'instinct de propriété. Et peut-être la monogamie ou la polygamie, enfin dans un seul sens. Et est-ce que ces tabous-là ont été mis en place à ce moment-là, dont on dépend encore ? Alors la vertu de la virginité ou le tabou de l'infidélité ? Je ne sais pas si c'est un tabou vraiment. Oui.
Alors là, virginité, tout ça, on ne peut pas dire. Mais par contre, vous avez raison, on constate des changements du rapport entre les hommes et les femmes, et notamment par rapport à justement cette société néolithique qui est complètement bouleversée, hein, qui va petit à petit, on voit apparaître, ça prend plusieurs milliers d'années, hein, on voit apparaître les castes, la caste des guerriers, etc. On voit apparaître aussi la notion de propriété, les biens, le superflu, c'est-à-dire qu'on a du surplus alimentaire, etc. Et on voit que toutes ces structures sociales changent. Quelque chose qui était à peu près équilibré, je ne vais pas dire égalitaire parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais équilibré entre tous les individus d'un groupe, ben là, on va voir apparaître des élites. Et on le voit dans l'alimentation aussi, on les voit dans les tombes, on va voir apparaître les tombes riches, les tombes pauvres. Et évidemment, vous avez raison, c'est là qu'on situe, c'est une hypothèse hein, de travail, il faut attendre d'avoir des confirmations, des études, on situe le passage, l'arrivée, la mise en place, une instauration forte du patriarcat, et notamment justement où on va commencer à enfermer les femmes, entre guillemets, dans leur maison, parce qu'il y a la transmission. L'homme, la femme, on est toujours sûr que son enfant, voilà. Alors que l'homme, non. Et donc, quand il y a des biens à transmettre, il faut que l'homme s'assure de la transmission de ses biens à sa descendance. Donc, c'est vrai qu'il y a les hypothèses de cette instauration, ce changement des statuts entre hommes et femmes se situe justement vers la fin du néolithique. Tout à fait.
Une question, il nous reste encore 2-3 minutes, parce qu'on va vraiment respecter les horaires. Sophie Padilla.
Oui, merci. Ma question, elle porte sur la proximité entre le tabou et le déni. Est-ce que faire quelque chose de tabou, ce n'est pas de le rendre inaudible ? Je pensais, par exemple, lorsque le retour des gens des camps, ils n'ont pas pu être entendus avant les années 84-85, c'était tabou d'en parler. Voilà. Un inceste, c'est tabou d'en parler. Est-ce qu'en fin de compte, de faire quelque chose de tabou, ça ne lui permet pas de ce déni, de mettre en place un déni ? Donc la proximité entre ces deux mots, comme il pouvait être aussi proche de l'interdit, est-ce qu'il n'est pas aussi proche du déni dans une certaine pratique du tabou ?
Alors, est-ce que vous... C'est assez... Peut-être une réponse... Vous pouvez tenter de vos points de vue, mais pas facile, hein, votre question, Sophie. La fonction psychique du tabou... Mais je ne vais pas vous ressortir de Freud, parce que là, vous allez en avoir marre et je vais recevoir des tomates sur la tête. Mais il y aura une fonction quand même, là, ici, du déni, et sans doute en lien... Écoutez, je sens que vous n'allez pas avoir la réponse.
C'est juste une réflexion. Je me dis maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, est-ce que des tels dénis sont encore possibles ? Puisque tout est tout de suite public. Donc, est-ce que ça va changer quelque chose à... Notre conception du tabou, j'en ai pas la moindre idée. Mais le déni est un phénomène, de toute façon, très intéressant et qui alors va largement au-delà du tabou. Des dénis, on connaît bien ça en médecine. Hein, si on pense au dérèglement climatique, voilà un autre bon exemple, etc. Mais lié au tabou comme ça, enfin, c'est juste cette réflexion. Je me dis, mais si vraiment c'est lié, le tabou est lié au secret, ça va peut-être nos pratiques sociales vont changer ce tabou.
On revient peut-être là aussi à la définition du tabou. Parce que j'étais en train de penser, madame, ce qu'elle disait, ça me faisait penser aussi qu'on ne pouvait pas parler pendant très longtemps, enfin c'est très récent, du viol au sein de la famille, c'est-à-dire du viol de la femme par son mari. Parce que ça n'avait pas de sens pour la plupart, en disant, mais non, le mari a tous les droits, etc. Et donc de briser, est-ce que c'est... Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là de briser ce tabou du fait de parler de ce qui se passe dans l'intimité ? Mais est-ce que ça, c'est un tabou ? Vous voyez, le problème, c'est quand on essaie, enfin pour moi qui ne suis pas du tout philosophe, j'ai mes limites dans la... Parce que oui, on veut dire non, ça n'existe pas, on le cache. Voilà, et en réalité, maintenant, on dit, mais non, s'il n'y a pas consentement, même si c'est un couple, même si, ben non. Alors qu'avant, tout le monde aurait regardé avec des grands yeux en disant, allez, il faut l'enfermer, vite, vite, lâcher Charcot. Hein. Donc, je pense que c'est. Voilà, mais est-ce, ma question, je fais le spectateur. Mais ma question, c'est de me dire, est-ce que ça s'appelle un tabou ou est-ce que. C'est ça, notre difficulté parfois, c'est à travers ces mots. C'est pour ça que des fois, il y a des incompréhensions d'ailleurs entre les êtres, parce qu'on ne parle pas des mêmes choses peut-être.
Je pense que le cas du viol entre époux est assez intéressant parce que c'est les normes des relations entre époux qui ont changé. Parce que avant, pourquoi le viol entre époux n'était pas possible ? Parce qu'il y avait un devoir conjugal de chaque époux de satisfaire le désir de l'autre. Donc la notion de viol était juste. Non, mais. C'était comme ça en théorie. Après,
du mari, oui.
Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la notion même de viol entre époux, on ne pouvait pas la construire. Alors que maintenant, où on insiste sur le consentement, ça a changé, ça change le paysage moral. Donc moi, je ne parlerai pas de tabou là, parce qu'il y a vraiment d'un changement de norme.
Bien, on va vous remercier tous les deux. Merci au public.
Merci à vous.
On se retrouve dans une demi-heure à 16h sur l'inceste, une violence familiale avec le juge Édouard Durand, l'historienne Fabienne Giuliani, le psychiatre Luc Massardier. 17h45, Marie-Hélène revient sur le cannibalisme, un comportement ancestral, 17h45, 18h15. Et puis enfin, 18h30, la joute oratoire des étudiants de master éthique, qui sera un peu une fête de l'argument et du convaincre. Voilà, à tout à l'heure. Merci.